s'était cachée la désillusion de ses sens. Il n'en feignait pas moins de grandes ardeurs, mais pour les ressentir, il lui fallait évoquer l'image de Rosanette ou de Madame Arnoux. Cette atrophie sentimentale lui laissait la tête entièrement libre, et plus que jamais il ambitionnait une haute position dans le monde. Puisqu'il l'avait à marche-pied pareil, c'était bien le moins qu'il s'en servît. Vers le milieu de janvier, un matin, Sénécal entra dans son cabinet et à son exclamation d'étonnement, répondit qu'il était secrétaire de Delaurier. Il lui apportait même une lettre. Elle contenait de bonnes nouvelles et le blâmait cependant de sa négligence. Il fallait venir là-bas. Le futur député dit qu'il se mettrait en route le surlendemain. Sénécal n'exprima pas d'opinion sur cette candidature. Il parla de sa personne et des affaires du pays. Si lamentable qu'elle fût, elle le réjouissait, car on marchait au communisme. D'abord, l'administration y menait d'elle-même, puisque chaque jour il n'y avait plus de choses régies par le gouvernement. Quant à la propriété, la Constitution de 48, malgré ses faiblesses, ne l'avait pas ménagée. Au nom de l'utilité publique, l'État pouvait prendre désormais ce qu'il jugeait lui convenir. Sénécal se déclara pour l'autorité, et Frédéric aperçut dans ses discours l'exagération de ses propres paroles à Delaurier. Le républicain tenait même contre l'insuffisance des masses. Robespierre, en défendant le droit du petit nombre, amena Louis XVI devant la Convention nationale et sauva le peuple. La fin des choses le rend légitime. La dictature est quelquefois indispensable. Vive la tyrannie, pourvu que le tyran fasse le bien. Leur discussion dura longtemps, et comme il s'en allait, Sénécal avoua, c'était le but de sa visite peut-être, que Delaurier s'impatientait beaucoup du silence de M. d'Ambreuse. Mais M. d'Ambreuse était malade. Frédéric le voyait tous les jours, sa qualité d'intime le faisant admettre près de lui. La révocation du général Changarnier avait ému extrêmement le capitaliste. Le soir même, il fut pris d'une grande chaleur dans la poitrine avec une oppression à ne pouvoir se tenir couché. Des sangsues amenèrent un soulagement immédiat. La toux sèche disparut, la respiration devint plus calme, et 8 jours après, il dit en avalant un bouillon « Ah, ça va mieux, mais j'ai manqué faire le grand voyage. »« Pas sans moi ?» s'écria Madame d'Ambreuse, notifiant par ce mot qu'elle n'aurait pu lui survivre. Au lieu de répondre, il l'étala sur elle et sur son amant un singulier sourire, où il y avait à la fois de la résignation, de l'indulgence, de l'ironie, et même, comme une pointe, un sous-entendu presque gai. Frédéric voulut partir pour Nogent. Madame d'Ambreuse s'y opposa. Il défaisait et refaisait tour à tour ses paquets, selon les alternatives de la maladie. Tout à coup, M. d'Ambreuse cracha le sang abondamment. Les princes de la science, consultés, n'avisèrent à rien de nouveau. Ses jambes enflaient et la faiblesse augmentait. Il avait témoigné plusieurs fois le désir de voir Cécile, qui était à l'autre bout de la France, avec son mari, nommé receveur depuis un mois. Il ordonna expressément qu'on la fît venir. Madame d'Ambreuse écrivit 3 lettres et les lui montra. Sans se fier même à la religieuse, elle ne le quittait pas d'une seconde, ne se couchait plus. Les personnes qui se faisaient inscrire chez le concierge s'informaient d'elle avec admiration, et les passants étaient saisis de respect devant la quantité de paille qu'il y avait dans la rue, sous les fenêtres. Le 12 février, à 5 heures, une hémoptysie effrayante se déclara. Le médecin de garde dit le danger. On courut vite chez un prêtre. Pendant la confession de M. d'Ambreuse, Madame le regardait de loin, curieusement. Après quoi, le jeune docteur posa un vésicatoire et attendit. La lumière des lampes, masquée par des meubles, éclairait la chambre inégalement. Frédéric et Madame d'Ambreuse, au pied de la couche, observaient le moribond. Dans l'embrasure d'une croisée, le prêtre et le médecin causaient à demi-voix. La bonne sœur, à genoux, marmottait des prières. Enfin, un râle s'éleva. Les mains se refroidissaient. La face commençait à pâlir. Quelquefois, il tirait tout à coup une respiration énorme. Elles devinrent de plus en plus rares. 2 ou 3 paroles confuses lui échappèrent. Il exhala un petit souffle en même temps qu'il tournait ses yeux, et la tête retomba de côté sur l'oreiller. Tous, pendant 1 minute, restèrent immobiles. Madame d'Ambreuse s'approcha, et sans effort, avec la simplicité du devoir et lui ferma les paupières. Puis elle écarta les deux bras, en se tournant la taille comme dans le spasme d'un désespoir contenu, et sortit de l'appartement, appuyée sur le médecin et la religieuse. Un quart d'heure après, Frédéric monta dans sa chambre. On y sentait une odeur indéfinissable, émanation des choses délicates qui l'emplissaient. Au milieu du lit, une robe noire s'étalait, tranchant sur le couvre-pied rose. Madame d'Ambreuse était au coin de la cheminée, debout. Sans lui supposer de violents regrets, il la croyait un peu triste, et d'une voix dolente. « Tu souffres ?»« Moi, non, pas du tout. » Comme elle se retournait, elle aperçut la robe, l'examina, puis elle lui dit de ne pas se gêner. « Fume, si tu veux, tu es chez moi. » Et avec un grand soupir, « Ah, Sainte Vierge, quel débarras !» Frédéric fut étonné de l'exclamation. Il reprit, en lui baisant la main, « On était libres, pourtant. » Cette allusion à l'aisance de leurs amours parut blesser Madame d'Ambreuse. « Eh, tu ne sais pas les services que je lui rendais, ni dans quelles angoisses j'ai vécu. Comment ? Mais oui. Était-ce une sécurité que d'avoir toujours près de soi cette bâtarde ? Une enfant introduite dans la maison au bout de 5 ans de ménage, et qui, sans moi, bien sûr, l'aurait amenée à quelques sottises ?» Alors elle expliqua ses affaires. Il s'était marié sous le régime de la séparation. Son patrimoine était de 300 000 francs. Monsieur d'Ambreuse, par leur contrat, lui avait assuré, en cas de survivance, 15 000 livres de rente avec la propriété de l'hôtel. Mais peu de temps après, il avait fait un testament où il lui donnait toute sa fortune, et elle l'évaluait, autant qu'il était possible de le savoir maintenant, à plus de 3 millions. Frédéric ouvrit de grands yeux. Ça en valait la peine, n'est-ce pas? J'y ai contribué, du reste. C'était mon bien que je défendais. Cécile m'aurait dépouillé, injustement. Pourquoi n'est-elle pas venue voir son père? Dit Frédéric. À cette question, Madame d'Ambreuse le considéra, puis, d'un ton sec, je n'en sais rien. Faute de cœur, sans doute. Oh, je la connais. Aussi, il n'aura pas de moi une obole. Elle n'était guère gênante, du moins depuis son mariage. Ah, son mariage, fit en ricanant Madame d'Ambreuse. Et elle s'en voulait d'avoir trop bien traité cette pécore-là, qui était jalouse, intéressée, hypocrite. Tous les défauts de son père. Elle le dénigrait de plus en plus. Personne d'une fausseté aussi profonde, impitoyable d'ailleurs, dur comme un caillou, un mauvais homme, un mauvais homme. Il échappe des fautes, mais mot plus sage. Madame d'Ambreuse venait d'en faire une, par ce débordement de haine. Frédéric, en face d'elle, dans une bergère, réfléchissait,